Audiolib présente L'effet papillon, la cinquième enquête du département V, de Jussi Adler-Olsen. Lu par Julien Châtelet. Ce livre est dédié à ma belle-mère, Anna Larsen. Prologue. Automne 2008. Le dernier matin de la vie de Louis Fon eut la douceur d'un murmure. Il se leva de sa couche, les yeux pleins de sommeil et la tête un peu lourde, donna une petite tape sur la croupe de la gamine qui lui avait caressé la joue pour le réveiller, essuya la morve qui coulait du nez brun de la petite et glissa les pieds dans ses tongs posés sur le sol en terre battue. Il s'étira et cligna des yeux dans la pièce baignée de soleil, emplie des caquettements stridents des poules et des cris plus éloignés des garçons, occupés à couper des régimes de bananes en haut des moussasses. « Quelle paix !» songea-t-il en humant l'odeur épicée qui se dégageait du village. Seul le chant des pygmées Baka autour d'un feu de camp sur l'autre rive du fleuve pouvait lui procurer plus de plaisir que ce parfum-là. Il était toujours heureux de retourner dans le territoire de Dja et le village bantou reculé de Somolomo. Les gosses couraient derrière la hutte. Un nuage de poussière rouge se levait sous leurs pieds nus et leur piaillement aigu faisait s'envoler les oiseaux tisserins des cimes des palmiers. Il avança dans le ray de lumière, alla s'accouder au rebord de la fenêtre et adressa un large sourire à la mère de la fillette qui égorgeait le poulet du jour devant sa hutte, juste en face. Il ne savait pas encore que ce serait son dernier sourire. À 200 mètres de là, l'homme maigre et son guide débouchèrent du sentier qui traversait la palmeraie, et il lui suffit d'un regard pour deviner qu'il n'était pas animé de bonnes intentions. Il reconnaissait la silhouette musclée de Mbomo pour l'avoir rencontré à Yaoundé, mais l'Européen aux cheveux blancs, il ne l'avait jamais vu. « Qu'est-ce que Mbomo vient faire là? Et qui est l'homme qui l'accompagne ?» demanda-t-il d'une voix forte à la mère de la fillette. Elle haussa les épaules. Il n'était pas rare de voir des touristes à la lisière de la forêt tropicale humide. Pourquoi s'en préoccuperait-elle? C'était sans doute des Européens fortunés qui venaient passer 4 ou 5 jours avec les Baka dans l'immense chaos de la jungle Dja. Mais Louis avait un mauvais pressentiment. On sentait une gravité émaner de ces deux hommes, une complicité aussi. Il y avait un problème. Le blanc n'était pas un touriste, et Mbomo n'avait rien à faire dans le secteur sans que Louis s'en soit informé. C'était lui qui dirigeait le programme danois d'aide au développement, et Mbomo n'était que l'homme à tout faire des fonctionnaires de Yaoundé. C'était comme ça que ça marchait. Les deux hommes sur la piste, là-bas, n'étaient-ils pas sur le point de faire une chose que Louis n'était pas supposé voir? Il le craignait fort. De manière générale, il y avait beaucoup de choses bizarres dans ce projet. Tout allait trop lentement. Les informations circulaient mal ou pas du tout. L'argent se faisait attendre ou n'arrivait pas. Bref, ce n'était pas ce qu'on lui avait promis à l'époque où on l'avait recruté pour cette mission. Louis secoua la tête. Lui-même était d'origine bantou. Il venait de l'autre bout du Cameroun, à plusieurs centaines de kilomètres, au nord-ouest de ce village qui se trouvait près de la frontière congolaise. Chez lui, là-haut, douter de tout et de tout le monde était une leçon qu'on apprenait au berceau, et probablement la principale raison pour laquelle Louis avait consacré sa vie à travailler avec les gentils Baka, les pygmées de la jungle Dja. Ce peuple dont les origines remontaient à une époque où la forêt se plantait encore d'elle-même. Ce peuple pour qui un mot aussi laid que « soupçon » était incompréhensible. Pour Louis, ces âmes pures étaient une oasis de bonté humaine dans un monde malfaisant. Son attachement au Baka et à cette région était son élixir de vie et sa consolation, et voilà que, même dans cet endroit, il soupçonnait le mal d'approcher. Est-ce qu'un jour il guérirait tout à fait de cette méfiance instinctive? Il trouva le 4x4 de Mbomo garé derrière la troisième rangée de huttes, avec au volant un chauffeur vêtu d'un maillot de foot trempé de sueur et profondément endormi. « Est-ce que Mbomo me cherche, Silou ?